Aujourd'hui, je vais vous raconter une bien étrange aventure survenue à l'un de mes amis il y a de cela un an, très exactement. Ce dernier se promenait dans les collines de la Haute-Provence. Il marchait depuis plusieurs heures lorsque, tout d'un coup, il se rend compte qu'il est perdu. Alors que va-t-il faire? Puisque la campagne est là tout autour, il ne lui reste qu'à continuer tout droit. Après tout, le chemin sur lequel il se trouve finira bien, pense-t-il, par le mener quelque part. Et soudain, au détour d'un sentier, il se trouve confronté à un énigmatique vieillard qui est assis là, devant lui, sur un rocher. Il s'approche, dans l'intention de lui demander sa route, et à sa grande surprise, le vieillard le regarde intensément, droit dans les yeux, avant de lui répondre « Sachez, jeune homme, que votre route n'est pas la mienne. Sachez que votre monde n'est pas le mien. Sachez que vous et moi, nous vivons dans deux univers parfaitement distincts l'un de l'autre. Alors, vous comprendrez bien que, pour la route que vous me demandez, je ne puis vous être, hélas, d'aucun secours. » Passablement interloqué par cette réponse, pour le moins énigmatique, notre promeneur hausse les épaules et décide alors de continuer sa route. Quelques heures plus tard, il arrive enfin au village, et là, il a une idée fixe. Il lui faut, à tout prix savoir, coûte que coûte, qui était le mystérieux vieillard rencontré quelques heures auparavant dans les collines. Il va donc à la mairie, et à sa grande surprise, le préposé lui tend immédiatement un des registres de la mairie. Un registre qui contient une vieille gravure, âgé de 2 siècles environ, une gravure dont le visage évoque trait pour trait celui de l'homme rencontré, du vieillard rencontré quelques heures auparavant dans les collines. Et le préposé de continuer à expliquer que cet homme sur la gravure aurait disparu mystérieusement il y a 2 siècles après avoir vécu là, dans cet endroit. Énigmatique, il l'était, car personne n'a jamais retrouvé sa trace. Alors de quoi s'agissait-il? Était-ce la fatigue qui avait amené notre promeneur à confondre le visage de l'énigmatique vieillard avec celui de la gravure? Ou bien était-ce autre chose? Je vous rappelle que cette aventure est arrivée à quelqu'un que je connais bien et dont la bonne foi ne peut pas être mise en doute. Alors peut-être, comme l'affirmait le vieillard, celui-ci vivait dans une réalité différente de celle que nous connaissons habituellement. Peut-être qu'effectivement, il existe plusieurs plans de réalité qui, à des moments et en des lieux précis, finissent par se rencontrer. Et c'est précisément un de ces lieux différents, porteur d'une réalité autre, que je vous propose tout à l'heure de visiter. Mais avant cela, nous allons demander à Grishka quel sera le système, disons, de répression de la peine. Quelle sera la peine infligée hors la loi dans les 20 prochaines années? Eh bien, pour répondre, partons tout de suite pour les États-Unis, où vient d'être créé un lotissement expérimental destiné, dit-on, à révolutionner notre conception du monde carcéral. En effet, dans ce type de prison nouvelle, puisque c'en est une, les prisonniers ne sont pas, comme c'est le cas traditionnellement, incarcérés, mais ils ont la possibilité, la faculté d'aller et venir à l'intérieur de vastes camps, de vastes ensembles. Eh bien, maintenant, nous allons faire une autre hypothèse. Nous allons aller plus loin et imaginer qu'une ville entière soit transformée en prison. Cela pourrait très bien arriver, après tout, dans les 15, dans les 20 prochaines années. Alors, choisissons une date, 1997, pourquoi pas. Et puis, choisissons une ville, la ville de New York. Imaginons que New York soit ceinturée par une immense muraille haute de 15 mètres. New York, c'est désormais la ville prison, et elle n'est désormais plus survolée que par des patrouilles d'hélicoptères. Mais l'expérience, hélas, est loin d'être une réussite. Je vous propose de vous en rendre compte vous-même en visitant les rues de cette nouvelle New York, qui est une ville prison, et même en voiture, la promenade, l'excursion est loin d'être sans risque.
I think they saw us. Turn left. Turn left here.
Train, this is Broadway.
I know. The Duke will take 7th Avenue. Broadway's got 5 minutes.
No!
Yes. Keep driving.
What's wrong with Broadway? Sweetheart.
Come on, Brad.
Come
Oui, une vision forte qui nous montre que la véritable prison, au-delà des barreaux et au-delà des murailles, c'est la désintégration de l'univers social. C'est probablement la leçon que nous pourrons retenir de ce film de John Carpenter, son dernier film, New York 1997. Nous aurons également à réfléchir sur l'idée selon laquelle, au-delà de la prison, si l'on prend ce terme, un au-delà de la prison serait une réussite à partir de l'instant où on serait parvenu à implanter un espace de la réintégration. Donc New York 1997, à partir de la semaine prochaine, vous permettra peut-être de méditer sur ces quelques lignes d'avenir des 20 prochaines années. De toute façon, nous avons vu là des hommes qui sont coupés du monde et on avait la sensation qu'ils se promenaient un petit peu comme des étrangers sur un sol totalement étranger. Eh bien, ce sont également des hommes en perdition que je vous propose maintenant d'aller rejoindre. Il s'agit de naufragés de l'espace. Nous sommes à bord du Galactica, un immense vaisseau stellaire qui depuis très longtemps est en route, en voyage, à la recherche de sa planète d'origine. Les hommes qui l'ont construite ne savent pas où est cette planète d'origine, mais ils l'ont baptisée la Terre et ils ont l'espoir d'y parvenir. Hélas, l'univers est immense et de surcroît, ils sont sans cesse pourchassés par une race non humaine qui vise leur destruction totale, définitive. Alors imaginez. Imaginez le désespoir de ces hommes du Galactica lorsque, croyant avoir enfin identifié la Terre, ils se rendent compte que leurs terribles ennemis non humains sont au rendez-vous.
Voici un centre de population dans le secteur occidental, une ville qui s'appelle Los Angeles. Si vous regardez attentivement, ce que vous allez voir vous effraiera. Cependant, gardez votre calme, parce que ce n'est destiné qu'à vous renseigner. Les Cylons nous ont suivis jusqu'à cette planète. Maintenant, l'ordinateur va donner un aperçu simulé de ce qui se passerait si nous maintenions notre projet de nous poser sur la Terre.
Oui, de fortes images qui sont au service de cette obsession très ancienne consistant à être envahi par des êtres venus de l'espace. Il s'agit de la conquête de la Terre telle qu'elle nous est proposée par ce dernier épisode de Galactica. Nous aurons l'occasion de revenir sur Galactica pendant 10 semaines au cours de cet été spatial que nous vous proposerons dès la semaine prochaine. Mais maintenant, Igor, je propose que nous nous dirigions vers d'autres types de visiteurs, peut-être un peu moins belliqueux que ceux qui nous sont proposés par Galactica. Il s'agit de ceux inventés par Ian Watson.
Des visiteurs moins belliqueux, mais qui n'en sont pas moins d'origine extraterrestre. Ian Watson nous le présente dans son dernier ouvrage paru aux éditions Calmann Lévy sous le titre « Les visiteurs du miracle ». Ian Watson est un auteur anglais qui s'est fait mondialement connaître à travers un livre dans les années 75 qui s'intitulait « L'enchassement ». On retrouve les mêmes qualités à la fois d'écrivain et de formulateur d'hypothèses dans ce livre, Les Visiteurs du Miracle, puisqu'effectivement il nous présente une hypothèse extraordinaire sur sa propre vision, à lui, du phénomène extraterrestre.
Arthur Clarke nous le rappelait la semaine dernière, puisqu'il était notre invité, la science-fiction a pour objet de sensibiliser ceux qui la lisent, et même les autres, à la notion de vie extraterrestre et à nous préparer au contact qui inévitablement s'établira entre ceux venus d'ailleurs et les hommes de la Terre.
Est-ce que tu as remarqué que la littérature consacrée au phénomène OVNI n'a jamais été aussi abondante qu'aujourd'hui? Des centaines dizaines et des milliers de livres paraissent un peu partout chaque année dans le monde.
Alors, parmi ceux-là, il y en a un que nous avons retenu cette semaine. Il s'agit du dernier livre de Charles Berlitz.
Oui, qui s'intitule Le mystère de Roswell, un livre qui vient de paraître aux éditions France Empire et qui prétend, selon son auteur, apporter pour la première fois dans l'histoire une preuve tangible, matérielle, de l'existence des extraterrestres.
Oui, mais alors là, il se fonde sur une hypothèse totalement différente. C'est une hypothèse d'ailleurs qui commence à émerger depuis quelques mois dans la littérature ufologique.
Dans la littérature ufologique, et une hypothèse qui puise ses sources dans l'armée américaine. L'armée américaine, n'oublions pas, a pendant plus de 30 ans fait le blackout, comme on dit entre guillemets, total sur le phénomène OVNI, puisque chaque information qu'elle était amenée à examiner était mise dans des dossiers secrets que personne ne pouvait consulter. Alors, maintenant, après une loi donc, qui a été votée par le Parlement américain, eh bien, on a la possibilité, sous certaines conditions, de consulter ces dossiers. Et évidemment, nombre d'informations particulièrement intéressantes, particulièrement impressionnantes, dont celles dont nous retrouvons des traces dans l'ouvrage de Berlitz, sont accessibles.
Oui, alors,
il y a justement une information qui a été rendue publique dans les toutes dernières années, une information dont nous avons recueilli les sources aux États-Unis et qui a été reprise dans dernier numéro de la revue scientifique La Recherche, dont j'aimerais dire quelques mots. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il faut revenir pour comprendre ce phénomène et la portée extraordinaire de cet événement en 1948. En 1948, en effet, les contrôleurs aériens de certaines bases militaires américaines constatent que sur leur spot, un objet se déplace à plus de 4000 km à l'heure. Et puis, tout d'un coup, l'objet semble se diriger vers la Terre, il y a impact, c'est le choc. À ce moment-là, immédiatement, on envoie une mission de reconnaissance, on repère l'endroit où s'est effectué le choc et on découvre des débris qui appartiennent vraisemblablement à l'objet.
Oui, alors ça, c'est extraordinaire, alors déjà extraordinaire. Mais à l'intérieur de l'objet en question, on a découvert le corps de son occupant, peut-être de son pilote, en tout cas d'un occupant.
Absolument. Et ce corps, pour la première fois, on peut le voir. Il est publié dans le dernier numéro de la recherche, enfin la photo est publiée dans le dernier numéro de la recherche. Il se présente sous la forme d'un être humanoïde qui possède une tête, un tronc, des bras. C'est le corps donc d'un être qui a été soumis à un accident. On le voit au milieu des débris.
Il est totalement calciné.
Il est totalement calciné. Et les analyses qu'on a fait immédiatement sur lui révèlent que sa structure interne est une structure d'humanoïde. Mais par exemple, le sang, le liquide nourricier, se présente sous la forme d'un liquide transparent, disent les rapports, qui présente des reflets verdâtres et une forte odeur sulfureuse.
Bon, alors, tout ça induit deux hypothèses. Alors, selon les tenants de la première hypothèse, il s'agirait d'un singe.
Alors, selon les tenants de l'hypothèse, effectivement, il s'agirait d'un singe, qui aurait, comme c'était le cas pour les orang-outans ou les singes rhésus, qui aurait été soumis à des expériences. Mm-hmm. Des expériences, mais on voit mal comment en 1948, à l'époque, les États-Unis n'étaient pas suffisamment avancés sur le plan astronautique, on voit mal comment à l'époque on aurait pu fabriquer un engin qui valait à plus de 4000 km à l'heure et qui aurait pu couvrir un rayon d'action aussi important.
Oui,
par contre, les V2 à l'époque ne couvraient des rayons d'action que de l'ordre de 400 km. Alors, il y a une deuxième hypothèse qui est défendue par les ufologues, bien évidemment, selon laquelle, eh bien, pour la première fois, nous aurions la preuve tangible qu'il s'agit d'un engin d'origine extraterrestre contenant un pilote d'origine extraterrestre. Les photos en tout cas ont été authentifiées, elles sont authentiques et elles prouvent bien que effectivement là il y a mystère, la tête est anormalement grosse.
Oui, il y a mystère et il y a même problème, car même si en 1948 il s'agissait d'un singe, il faudra résoudre le mystère selon lequel on expérimentait à l'époque sur des singes, et illégalement bien évidemment. C'est une des choses qu'il faudra éclaircir dans les années à venir. C'est en tout cas un débat très intéressant qui, je le rappelle, relance d'une manière tout à fait inédite et inattendue la vieille question posée par les ovnis depuis 1948. 47, date à laquelle les premières apparitions ont été constatées. Nous allons maintenant quitter le ciel des ovnis et revenir sous celui de la Grèce, dans un temps très archaïque, un temps où, je le rappelle, le destin des hommes et des dieux était intimement mêlé. Il y avait dans ce temps-là l'apparition de phénomènes et en même temps de créatures extrêmement étranges et menaçantes, en particulier au large de la mer Égée. On raconte qu'il existe une créature épouvantable dont la tête est ornée par une couronne de serpents et qui pétrifie ceux qui osent la regarder. Cette créature est nommée la Gorgone, ce qui veut dire en grec la frayeur. Et pour cela, pour la combattre, pour la détruire, il faudra un héros. Ce héros, je vais vous le présenter, il s'agit de Persée. Il mettra toute sa vertu, toutes ses valeurs au service de la destruction de cette créature d'essence supérieure qui prétend troubler le ciel de la Grèce. Nous allons maintenant le rejoindre dans son combat héroïque, mais n'oublions jamais de nous demander pourquoi. Pourquoi la légende nous raconte avec tant d'insistance la présence de ces créatures divines.
C'est la mythologie grecque, avec ses hommes, ses héros et ses dieux, qui se trouve au centre du choc des titans, le nouveau film très attendu de Desmond Davis. Mais le choc des titans marque surtout le retour de créatures fabuleuses telles que seul peut les déchaîner le grand Ray Harryhausen. De Persée, sa lutte contre les monstres libérés par les dieux et sa quête de la tête de la Gorgone constituent la trame d'un film au détour duquel nous rencontrerons la plus belle créature de toute la mythologie grecque, Pégase. Ray Harryhausen s'est une fois de plus surpassé et fait de ce choc des titans un véritable éblouissement.
Ha ha ha!
Ces images étonnantes étaient tirées donc du film Le Choc des Titans, un film que vous pourrez voir à partir du 7 juillet et dont nous reparlerons abondamment puisque le responsable des effets spéciaux, Ray Harryhausen, sera notre invité dans le temps X dans une grande rencontre à partir du mois de septembre prochain. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que aujourd'hui, nous ferions une incursion dans un univers différent de celui que nous côtoyons habituellement. Je vous propose en effet de visiter un endroit dans le sud de la France où le temps et la réalité ne semblent pas avoir la même valeur que partout ailleurs. Dans cet endroit, nous avons rencontré deux hommes qui ne semblent pas partager la même vision du monde que leurs contemporains. Regardez bien, nous sommes au Vaux-de-Provence, un village connu dans le monde entier et dont certains habitants, néanmoins, ne sont pas tout à fait comme les autres.
Il existe un lieu où des hommes vivent, de génération en génération, depuis les temps préhistoriques. Des milliers d'années d'histoire s'y superposent, s'y emmêlent, s'y croisent et s'y décroisent à fleur de pierre, conservant l'empreinte des vies qui se sont déroulées là.
Je sens une présence extraordinaire au bout, comme une aura, comme une aura spirituelle qui marque la pierre, qui la fait parler.
C'est un lieu de passage, un lieu tellurique exceptionnel.
Mais il y a une attraction magnétique indéniable.
Chercheur d'outre-temps, Alfred Naon, l'homme de l'espace, et Antti le marin, l'homme de la terre, égarés partout ailleurs mes princes au beau, poursuivent en parallèle les travaux étranges. Et pour une fois, les parallèles se rejoignent.
Je pense que c'est ce que l'on peut appeler un haut lieu habité par l'esprit.
Fantasque, poète et physicien, architecte de vie et de pierre, Antti, personnage insaisissable, s'est intéressé, lui, à la radiesthésie, ou, plus exactement en grec, la sensation physique du rayonnement, parce que tout rayonne, tout n'est que correspondance.
L'humain est sensible aux radiations qu'il détecte à travers la méthode de la radiesthésie, qui n'est qu'une méthode de détection. Nous avons cinq sens, et il paraîtrait que nous en avons cinq autres. Le sixième sens, ne pouvant pas être révélé par quelque chose de visible, il passe à travers un petit instrument qui est le pendule, qui peut être même remplacé par le bras, par un mouvement quelconque, n'est-ce pas, qui donne un signal. Si vous tenez du cuivre dans la main, et s'il y a du cuivre dans le sol, vous aurez une sensibilité beaucoup plus grande et votre pendule va indiquer le point de contact au sol.
On a tendance aujourd'hui à rejeter dans une sorte d'obscurantisme ces pratiques sous prétexte de rationalisme. Mais c'est avoir la mémoire bien courte, puisque les cours de l'école de guerre à Paris, au début du siècle, comportaient l'enseignement de la radiesthésie. En fait, c'est à l'évidence notre attitude qui a changé. La radiesthésie, elle, traverse les siècles.
On a retrouvé un pendule près d'un pharaon, et les Romains également s'en servaient pour chercher les eaux de sources chaudes et froides, n'est-ce pas ? Et au cours du Moyen-Âge également, et notamment au temps de Richelieu, nous devons toutes nos richesses minières au couple les comtes de Beausoleil, qui nous ont dressé la carte de toutes les richesses minières de France. Même des scientifiques comme De Broglie, d'Arsonval sont intéressés à la radiesthésie.
C'est le lieu privilégié où de mystérieux rayonnements invisibles semblent vouloir garantir une intégrité presque magique. C'est le point de rencontre immémorial où se rejoignent, dit-on, en un feu d'artifice perceptible seulement par l'initié, les forces cosmiques et les forces telluriques. Et nous voilà soudain, transportés à des centaines de milliers de kilomètres comme par enchantement. Anti vient d'ouvrir une porte insoupçonnée, libérant des myriades d'ondes que chevauche un autre cavalier de l'impossible, Alfred Nahon. Forces étonnantes s'il en est, puisque les pendules avaient pu dévoiler les secrets d'une planète. Une carte de la face cachée de la Lune, établie en 1948, fut en tout point confirmée 12 ans plus tard par les photos des engins soviétiques.
Mais il y a mieux encore, c'est la face visible qui a été examinée par de nombreux astronomes professionnels. Et le plus éminent spécialiste de la Lune parmi eux est le professeur Wilkins. Wilkins a dit que l'on a remarqué la transformation de plusieurs cratères. Et cela a été notamment confirmé par Maurice Chatelain, qui a travaillé 20 ans à la NASA, dont 10 années sur le programme informatique des Apollo. Il dit en substance que l'on a vu des lumières énormes sur la Lune, que l'on a vu des constructions, que l'on a vu des obélisques de 25 mètres de haut. Deuxièmement, sur d'autres cratères beaucoup plus actifs que ceux du site d'Apollo 11, on a souvent prétexté des pannes de caméra, des oublis de pellicules photographiques. Et tout cela vous explique ce que l'on cache au public.
Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. I'm at the foot of the ladder. I'm going to step off the limb now.
Mais Maurice Chatelain sait que la NASA a caché beaucoup de choses, mais il ne pouvait pas le dire auparavant, car il était encore en activité.
Donc ça bouge là-haut.
Et donc il y a une activité de génie civil. Je suis convaincu qu'il y a des extraterrestres là-haut.
Mais enfin, pourquoi ignorons-nous tout cela?
Ma réponse est que ce sont les gouvernements qui ont peur. Car la réponse des gouvernements est l'inverse. Nous cachons la vérité, disent-ils en coulisses, au peuple pour ne pas affoler les peuples. Et en fait, ce dont je suis persuadé, c'est que ce sont les gouvernements qui sont en pleine panique. Et voilà pourquoi ils le cachent. Mais, cher ami, la situation actuelle, politique et autres, dans le monde actuel, n'est-elle pas assez dramatique? Si les gouvernants ajoutent la vérité sur ce qu'il se passe sur la Lune, dans les océans, aux Bermudes, mais les êtres ne pourraient plus jamais regarder la Lune sans avoir peur que le ciel leur tombe sur la tête, comme disaient les Gaulois. Nous sommes au seuil de 20 années de bouleversements de toutes sortes, géologiques, humains, psychologiques, sociaux, moraux, etc. Même si la prédiction de Nostradamus, 1999, septième mois, du ciel viendra un grand roi des frayeurs, se réalise, ce ne sera que pour le bien de l'humanité. Ce sera peut-être la mise en tutelle de l'humanité, mais quand on met en tutelle un enfant inconscient, ce n'est pas un drame.
Le grand livre des quêtes échevelées se referme. Autre espace peut-être, autres hommes sûrement, autre temps, sans aucun doute.
Oui, et autre relation que ces hommes des marges tissent avec leur environnement, nous aurons à y méditer une nouvelle fois. Igor, la semaine prochaine, nous partons pour 10 semaines pour une grande exploration de l'espace à bord du Galactica, dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais comme avant-goût à ceux qui désirent explorer l'espace par l'image, il y a également, manifesté par voie de courrier, d'énormes questions posées par rapport à ceux qui veulent apprendre à piloter et à voyager dans les airs.
En effet, avant d'aller immédiatement dans l'espace, eh bien, il semble que tous ceux qui nous écoutent sont particulièrement désireux d'apprendre à voler, à maîtriser donc des machines qui volent.
Alors pour ça, il faut deux conditions, puisque nous qui avons appris à piloter, nous le savons bien, il faut deux conditions bien précises.
Oui, en effet, l'élève pilote doit subir une formation qui est assurée par un personnel de qualité. Les instructeurs doivent être en fait des techniques modernes.
Et d'autre part, parce que ces techniques évoluent très rapidement, qu'il s'agisse des communications, qu'il s'agisse aussi de la maîtrise théorique des machines.
Absolument, et justement, ceci met en évidence le fait que la deuxième condition doit être du côté des machines, du matériel utilisé. Les avions, les hélicoptères doivent être modernes, équipés avec une technologie de pointe, et évidemment soumis à une surveillance et à un entretien tout à fait irréprochable. Alors notre expérience de pilote justement nous a amené à fréquenter de nombreux aérodromes, et en particulier, j'aimerais préciser que tous ceux qui s'intéresseraient donc à la formation des élèves pilotes peuvent s'adresser à l'aérodrome de Guyancourt, à la société PAS, Professional Air System, aérodrome de Guyancourt, 78 190 trappes, et ils peuvent téléphoner au 043 29 18. Le meilleur accueil leur sera fait si vous téléphonez de notre part, bien sûr. Et puis je précise que cet aérodrome est équipé d'hélicoptères.
Pour tous ceux qui partent dans les airs, je demande de nous rejoindre la semaine prochaine. Nous retrouverons Galactica pendant 10 semaines. Bon voyage dans le temps X.